Europe 1.
Comme tous les soirs sur Europe 1, jusqu'à 19h, vos grandes voix sont là. Elles sont de retour, les grandes voix historiques. Ce soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et bien sûr, toutes vos questions et vos réactions au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Nathalie. Bonsoir les grandes voix, bonsoir Charles Villeneuve, bonsoir Gérard Carrérou.
Bonsoir,
bienvenue dans ce studio. oui, ça fait du bien, on est ravis de vous retrouver dans ce grand studio. La distanciation est de mise, mais on est ensemble pendant une demi-heure pour évidemment aller dans un instant vers les États-Unis, outre-Atlantique, où la situation est critique. On va faire le point avec vous deux dans une seconde. Mais d'abord, on va regarder chez nous ce qui se passe sur le plan national, à la veille de ces élections municipales, le 28 juin, et puis à la veille aussi, certainement, d'un discours du 14 juillet qui risque d'être, intéressant, flamboyant même, peut-être, avec peut-être de gros changements, Charles Villeneuve.
Peut-être même important.
Accessoirement, parce que à l'aune de cette crise et à cette date-là, il devrait y avoir des annonces. Toujours est-il que, voilà, Emmanuel Macron se prépare à des lendemains changeants. Charles Villeneuve.
Moi, je crois de toute façon que c'est même nécessaire. Je crois que l'Élysée et le chef de l'État ont conscience d'un risque d'isolement politique qui grandit, au risque même de voir le président s'enliser politiquement. Il voit bien, et on le voit tous, nous pouvons l'observer, les réactions de défiance au sein même de son groupe parlementaire, La République En Marche, qui critique ouvertement la gestion par le pouvoir de la crise sanitaire et qui doute des ressources politiques de l'exécutif. Et puis, si vous voulez, un certain nombre d'entourages, notamment y compris d'ailleurs autour du chef de l'État, mais pas seulement, vous racontent que la relation entre les deux hommes est délétère. Et que le Premier ministre est considéré comme un peu rigide, même si opérationnellement, il est considéré comme avoir réussi par l'opinion publique.
Vous permettez qu'on l'écoute ? C'était
oui,
le 7
sûr.
Mai, le Premier ministre Édouard Philippe.
Permettez-moi de vous dire que dans les moments que nous vivons, en plein dans une crise sanitaire d'une ampleur considérable, alors que des Françaises et des Français font un travail incroyable pour sauver leurs concitoyens, passer plus de 2 secondes à écrire, à parler, à s'interroger sur ce genre de sujet, me laisse très, très circonspect. Et je pense que nos concitoyens s'en contrefichent dans des proportions qu'à mon avis les journalistes politiques ne mesurent pas. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je me sens très français.
C'était face à la presse le 7 mai. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, ils ont toujours tous dit ça. Tous les premiers ministres, hein, de toute façon. Ils ont toujours répondu de la même manière.
Oui, bah ça, évidemment, il ne fallait pas attendre que le premier ministre dise qu'il allait mettre sa tête
voilà.
sur le bio.
Donc rien de neuf sous le soleil.
Ce qui est sûr, c'est écoutez.
Non, mais Gérard, juste, oui. Je te pose une. Je t'interromps une seconde.
Vas-y.
C'est le 7 mai. Regarde, aujourd'hui, nous sommes quand
quasiment
même.
Quasiment un mois après.
Le 1er juin.
Tout à fait.
Oui, mais. Ce qui se passe, franchement, l'épidémie s'éloigne, les chiffres sont meilleurs, tout le monde est content, Dieu, j'ai envie de dire, alléluia, enfin, on peut espérer. Mais dans le même temps, l'exécutif est à bout de souffle. Après 3 ans, il était déjà quasiment un petit peu à bout de souffle avec la réforme des retraites, qui aujourd'hui est passée à la trappe. Et là, si vous voulez, faute d'anticipation, faute de masques, faute de tests.
Une gestion erratique, une communication maladroite.
Il y a eu, on ne va pas y revenir, tout le monde maintenant est au courant, il y a eu une gestion un peu critiquable, laborieuse de la crise sanitaire. Il y a eu des mensonges répétés, etc. Tout ça ne fait pas de bien. Ça a substitué l'état de défiance de l'opinion à l'état de confiance. Donc, le président de la République, qui n'a pas jamais renoncé à l'idée de se représenter, doit se dire, mettons-nous une seconde dans ses traces, il doit se dire si je continue comme ça, je ne vais pas pouvoir me faire réélire. Il faut que je... Alors donc, il l'a dit lui-même, il faut se renouveler.
Il faut lancer l'acte 3.
Et ça passe forcément par un changement de Premier ministre à un moment.
Oui, d'autant qu'il va rentrer dans les 2 années finales
de son quinquennat
avec 3, si vous voulez, suffrages, c'est-à-dire avec 3 élections, les régionales, les départementales et l'élection présidentielle, et avec des phénomènes politiques que nous avons tous observés, la montée du contre-pouvoir des territoires, qui illustre maintenant ce que pèse dans les décisions politiques des régions. Et Gérard le disait à l'instant, il y a aussi un autre phénomène aperçu par toute l'opinion publique, c'est l'agilité des maires qui sont venus au secours de leurs administrés pendant que l'État distribuait des amendes. les maires distribuaient
des
masques.
Et qui n'ont pas l'intention de s'en laisser compter. Et c'est ce qu'on verra, bien sûr, dans une petite seconde. Les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On se retrouve juste après ça. C'est sur Europe 1, jusqu'à 19h, avec vous.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carrérou jusqu'à 19h.
Et oui, on est ensemble pour évoquer d'abord la suite pour Emmanuel Macron qui devrait lancer l'acte 3 de son quinquennat le 14 juillet. Et puis dans un instant, on est outre-Atlantique pour observer de près la situation. Les auditeurs également nous appellent et vous appellent Charles, Gérard, pour vous poser des questions. C'est le cas de Mouna. Bonsoir Mouna.
Bonsoir.
Bienvenue au Standard d'Europe 1. Vous avez l'occasion de poser votre question.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en cas de remaniement, le pouvoir se tire une balle dans le pied, étant donné la confiance qu'Édouard Philippe a gagnée auprès des Français ?
Mais c'est une bonne question.
C'est une très bonne question.
Vous savez, il a commis quelque chose qui, en général, est toujours mauvais pour celui qui commet cette faute sous la Ve République. C'est-à-dire, à un moment donné, quand un Premier ministre... C'est déjà arrivé dans le passé. C'est arrivé à Rocard. On a vu ce qui est arrivé à Rocard après. Quand un Premier ministre devient plus populaire ou a plus de confiance dans l'opinion que son président, c'est inacceptable. À un moment... Alors, on peut faire semblant de ne pas le voir. Ça peut durer un certain nombre de semaines ou de mois. Mais il y a un moment donné où le président est obligé... S'il veut, et surtout si c'est lui qui veut être candidat pour une réélection, il y a un moment donné où ça ne va plus. Donc il faut changer. Donc c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, il faudra changer de Premier ministre.
Nous sommes à 2 ans, Mouna, nous sommes à 2 ans de la réélection éventuelle du président de la République. Or, manifestement, il veut se lancer avec un nouveau projet dans les 2 années finales de son quinquennat. Et nouveau projet, qui dit nouveau projet, dit un nouvel homme, si
d'ailleurs,
vous voulez, pour conduire l'exécutif.
Alors, répondez s'il vous plaît à Mouna, messieurs, l'identité de ce nouvel homme commence à se préciser.
Ah ben, il faudra que ça soit, évidemment. Il faut réinventer une forme de macronisme. Oui. Le macronisme, qu'est-ce que c'était au départ? Le macronisme, c'était ni à droite ni à gauche, et c'était surtout la pensée libérale dans l'économie, etc. Aujourd'hui, vu la crise qui nous étreint, la crise économique formidable qui nous est tombée déjà dessus, il faut quelqu'un qui fasse autre chose que du libéralisme. Donc, probablement, la solution viendra, comme Premier ministre, d'avoir non pas un homme de droite reconverti en macronisme, mais d'avoir plutôt un homme venant de la gauche. Je verrais plutôt quelqu'un venant de la gauche incarnant une forme... style Le Drian,
un
personnage comme
Charles
ça.
Charles Villeneuve, c'est le seigneur de cette promotion, c'est lui qui tient la corde.
Je reprends l'idée... L'idée qui est névralgique en quelque sorte de Gérard, c'est-à-dire que Édouard Philippe, c'est le sérieux budgétaire, c'est sérieux pour tenir les comptes.
C'est ça.
Or là, on va changer de sujet. Il y a une déferlante de plans sociaux qui s'annonce, avec dans le cadre d'une économie anémiée, beaucoup plus que tous nos autres voisins d'Europe et notamment de l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne qui va d'ailleurs fixer le curseur de ce qu'il faudra faire.
Cap, oui.
C'est vous dire que peut-être nous marchons vers une Europe allemande plutôt qu'une Allemagne, si vous voulez, qui est européenne. Et ça, c'est très important. Or, là, il faut une relance de l'économie et la lutte contre le chômage de masse. Et Jean-Yves Le Drian, qui est d'abord, n'oublions pas, tout à l'heure, je parlais des territoires, qui a été président de région, qui a été maire, qui connaît bien la coordination de tout ce qui monte, si vous voulez, du peuple en quelque sorte. Hein, n'oublions pas qu'il y a cette ligne de partage des eaux dont on dit que c'est le peuple contre les élites. On en a assez parlé ces derniers temps. Mais je pense qu'il y a un couple qui va être constitué, qui ne peut pas, si vous voulez, laisser un homme d'expérience et qui n'a plus d'ambition réelle, qui n'a plus l'âge d'avoir une ambition présidentielle, Jean-Yves Le Drian. Mais il va mettre avec lui un grand bloc de ministères, notamment du travail, des affaires sociales, et là on parle de Gérald Darmanin.
Ça sera le gaullisme social qui viendra au service du roc, du menhir breton que serait Le Drian.
C'est une configuration. Cette candidature qui permettrait aussi de bloquer une candidature social-démocrate et écologiste avec un Jean-Yves Le Drian populaire.
Qui permettrait de récupérer pour le président de la République, de récupérer une partie de cet électorat la social-démocratie qui pour l'instant n'a pas de candidat.
D'autant,
il y a bien Ségolène Royal qui essaye.
D'autant que on écarte, il y a quand même ce qu'on appelle, et ça Gérard connaît bien ce phénomène, le socialisme municipal. Et il se porte très bien. Je vous rappelle qu'Hidalgo à Paris, Aubry à Lille, Jérôme Johanna Roland à Nantes, Nathalie Appéré à Rennes, oui. Stéphane Le Foll au Mans, Rebsamen à Dijon, vont être tous réélus. Ça montre bien de toute façon que le PS n'est pas dans les limbes complètement.
Et alors que le macronisme au municipal va sortir étrié.
Oh bah ça va être un résultat calamiteux.
Il faut vite tourner la page d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les joue dès le 28 juin. On se retrouve, messieurs Charles Villeneuve-Gérard-Carrio, dans une petite seconde, vous le voulez bien. On file outre-Atlantique, bien sûr. Après la mort de George Floyd, les émeutes se tournent-elles contre Donald Trump? Je vous pose la question à tous les deux. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carrérou jusqu'à 19h.
On file outre-Atlantique dans ce quart d'heure ensemble pour aborder bien sûr les émeutes aux États-Unis une semaine après la mort de George Floyd, cette Amérique apparemment fracassée. Écoutons d'abord Washington la nuit dernière, plusieurs villes sont concernées par ces violences. Voilà ce que disait Donald Trump, le président américain.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser un petit groupe de criminels et de vandales détruire nos villes et saccager nos communautés. Maintenant, l'Amérique a besoin de création, pas de destruction. De sécurité et pas d'anarchie. Mon administration va stopper la violence collective. Et nous allons la stopper net.
Gérard Carrero, vous connaissez très bien les États-Unis, vous faites régulièrement des allers-retours. Donald Trump qui dit ces mots, c'est quoi? C'est mettre de l'huile sur le feu? Il est incendiaire, ni plus ni moins.
Oui, on peut dire ça, mais je voulais juste vous dire. Moi, j'ai couvert, comme on dit en termes journalistiques, les émeutes dans les villes américaines en 1967 et 1968, après la mort de Martin Luther King. C'est là, il y avait effectivement 60, 80 villes à feu et à sang, pas à feu et à sang. Il y avait des morts, si, quand même, mais ça brûlait partout, le pillage, etc. Je pensais, et je suis retourné en Amérique tous les ans depuis 50 ans, je ne pensais pas revoir ça un jour en Amérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé d'un atroce, une atroce bavure policière, hein, terrible, on l'a vu à la télé, tout le monde l'a vu, horrible.
Non, mais rappelle-la
oui,
quand même, Gérard.
C'est-à-dire un homme, un noir de 46 ans qui est pour interpellation pour une affaire de billets de $20 qui serait faux, soi-disant, emmené dans une voiture et tabassé et par terre.
Étranglé avec un coude, avec un genou
qui, jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est une atroce bavure policière. Mais il y en avait eu d'autres, j'en ai vu des comme ça au fil des années, tous les 2-3 ans. Mais ça n'avait jamais déclenché un phénomène pareil. Alors donc, je vais essayer d'être extrêmement court. Pourquoi ça a déclenché ça, des émeutes qui peut-être continueront ce soir et demain? C'est pour au moins 3 raisons. Le coronavirus, on ne l'a jamais dit assez, a tué 100 000 Américains. Sur les 100 000 Américains, il y en a 1 sur 4 qui est noir. Les Noirs ont dégusté le plus. Deuxième chose, le chômage massif. 40 millions d'Américains au chômage.
Nous, en France, on a particulièrement
évidemment,
touchés.
Évidemment, les Noirs sont toujours ceux qui sont, quand il y a des périodes de chômage, les plus touchés. Ils ne l'étaient pas parce que Trump avait ramené le chômage à 3 points. Là, ils vont le redevenir. Et troisième chose, effectivement, Trump est un homme qui clive, on l'a souvent expliqué. Il cherche le clivage. Il est le chef moral de l'Amérique blanche, et il sait que Biden sera le représentant de l'Amérique des minorités, au premier rang desquels les Noirs. Donc, il y a un antagonisme, et d'ailleurs, vous avez vu, il ne fait pas vraiment le discours. Obama avait dit
chef de nation.
Obama avait dit, après une émeute dure, enfin, après une ratonnade, comme on dirait en France, dure, Obama avait dit, vous imaginez si ça aurait pu arriver à mon fils. Et ça avait calmé un petit peu le jeu. Mais est-ce que vous imaginez Trump disant ça? Non. Trump a intérêt, politiquement, on est à 5 mois des élections, Trump a intérêt à ce que l'Amérique soit partagée entre ceux qui veulent la loi et l'ordre et ceux qui apparaissent comme, peu ou prou, étant les tenants du désordre.
Il se place donc en chef, non de la nation, Charles Villeneuve, mais en chef purement et simplement de son camp. Il ne regarde pas le reste et il joue aussi sur la faiblesse des démocrates.
Ah bah oui, il a aussi un autre moyen d'essayer, si vous voulez, à 150 jours de l'élection américaine, d'essayer de se rattraper politiquement. Et cet autre choix, c'est de mettre en accusation la Chine par rapport à ce qui a mis par terre toute sa réussite économique, parce qu'il a quand même ramené, Gérard le rappelait à l'instant, à 3,6% le nombre de chômeurs. Or là, maintenant, avec la crise sanitaire, on en est à 40 millions, justement, qui demandent des allocations par rapport au fait qu'ils ont perdu quasiment leur salaire et la plupart de leurs honoraires. Et donc, partant de là, il va déclencher, et là, les marchés boursiers, notamment, sont assez inquiets, les marchés financiers, une véritable crise politique doublée d'une crise financière. Il va attaquer la Chine et d'ailleurs, il va dire tout haut tout ce que beaucoup de présidents, de premiers ministres et d'hommes politiques et même des gens de l'opinion publique pensent, c'est-à-dire que le coronavirus, c'est un virus chinois,
ce qu'il a déjà commencé à faire.
Alors lui, il va plus loin puisqu'il considère qu'en réalité, on rentre dans une sorte de guerre. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de nouvelles guerres froides entre la première et la deuxième puissance mondiale. Et d'ici le 3 novembre 2020, c'est-à-dire le jour de l'élection américaine, je pense qu'on va assister à une sorte d'offensive extrêmement brutale par rapport à la Chine.
Mais oui. Un mot encore sur les émeutes, ça peut se calmer, je l'espère. J'avais tout à l'heure au téléphone des Américains qui disent ça peut se calmer cette nuit, ça va, parce qu'il y a la garde nationale. Vous savez
la garde nationale, nombre d'artistes aussi qui se mobilisent et on sait
il y a quand même beaucoup de voix. Et puis il ne faut pas, ça serait une grave erreur de dire... C'est vrai qu'il y a du racisme en Amérique, et la preuve, c'est qu'il y a des éruptions de temps en temps de racisme, mais ça va quand même, moi je vous dis, j'étais depuis 50 ans, ça va quand même incomparablement mieux pour un noir. Il y a une classe moyenne noire, il y a des noirs aujourd'hui qui arrivent à vivre bien dans la société américaine. Donc ça serait une erreur majeure, comme le font certains gauchistes ici, de penser que l'Amérique n'est constituée que de blancs qui veulent tuer les noirs, etc., les liquider. Il y a effectivement de temps en temps des mauvaises pulsions, mais je pense que la violence n'est pas une bonne chose. Même les noirs pauvres n'ont pas envie de voir... Comment vont-ils aller au magasin? Oui. Ils ne vont pas pouvoir aller au supermarché si on brûle tous les supermarchés et ainsi de suite.
Évidemment, merci. On va s'arrêter, messieurs, mais vous revenez demain. Hein,
Gérard
Villeneuve, Gérard Carreau. Je vous attends, évidemment, dès 18h30. Les grandes voix, merci à vous deux.
Merci.